Afrique, à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le principal candidat de l'opposition à la présidentielle en Tanzanie, Tundu Lissu, a rejeté par avance aujourd'hui les résultats des scrutins présidentiels et législatifs de la veille, les qualifiant d'imposture totale. M. Lissu a dénoncé une fraude électorale d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la Tanzanie. Le vote dans de nombreuses parties du pays s'est déroulé dans des conditions qu'on ne peut décrire comme propices à des élections libres, équitables et crédibles, a déclaré M. Lissu, principal adversaire du président sortant John Magufuli, lors d'une allocution diffusée sur Internet. Boycott de l'opposition et appel à la désobéissance civile, affrontement intercommunautaire ayant fait une trentaine de morts, l'élection présidentielle de samedi en Côte d'Ivoire, sous haute tension, comme en Guinée où la réélection du président Alpha Condé pour un troisième mandat contesté a provoqué des troubles ayant fait une vingtaine de morts, l'opposition ivoirienne juge un troisième mandat du président Alassane Ouattara anticonstitutionnel. Le président Ouattara et son parti ont mené campagne tambour battant depuis deux mois dans tout le pays. En face, les dirigeants de l'opposition n'ont pas fait campagne, mais multiplié les conférences de presse à Abidjan et laissé leurs militants organiser des actions éparses sur le terrain. Près de 25 millions d'Algériens sont appelés dimanche à se prononcer sur une révision constitutionnelle censée fonder une Algérie nouvelle et à plébisciter son promoteur, le président Abdelmadjid Tebboune, pressé de tourner la page de son élection contestée du soulèvement populaire, le IRAK. Mais à l'issue d'une campagne électorale qui n'a pas suscité l'enthousiasme des Algériens, M. Tebboune prend le risque de voir son initiative de nouvelles lois fondamentales plombée sur un faible taux de participation à ce référendum. Et coup du sort, le président âgé de 74 ans a été transféré hier soir en Allemagne pour des examens médicaux approfondis après des cas suspects de COVID-19 dans son entourage. Le gouvernement camerounais a affirmé mercredi que son armée a tué l'un des membres du commando ayant attaqué samedi un établissement scolaire du sud-ouest anglophone, tuant 7 élèves et en blessant 12 autres. Au lendemain de l'attaque, le gouvernement avait mis en cause des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le président camerounais Paul Biya a décrété la journée de samedi, jour de deuil national en hommage aux victimes de l'école de Kumba. Les États-Unis ont refusé mercredi de soutenir la nomination à la tête de l'OMC de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, lui bloquant la voie pour devenir la première femme et la première africaine à diriger l'organisation. Mais rien n'est joué pour l'instant. Abdourahmane Dia.
Cette décision plonge l'Organisation mondiale du commerce dans l'incertitude. L'institution, qui a pour habitude de prendre les décisions par consensus, est ainsi privée de chef depuis le départ fin août du Brésilien Roberto Azevedo. Lancé début septembre, le processus de sélection de son successeur devait s'achever avant le 7 novembre. L'opposition des États-Unis à la candidate nigériane a grippé le processus. Lors d'une réunion à Genève, les États-Unis ont déclaré qu'ils soutenaient la sud-coréenne Yeo Ming-ti en raison de ses 25 ans d'expérience dans le domaine du commerce. Le comité qui supervise le processus de sélection avait conclu que Mme Ngozi est la candidate qui a le plus de chances de faire un consensus. Selon ce comité, la Nigériane avait de loin le plus de soutien et qu'elle était largement soutenue dans toutes les régions. Les membres de l'OMC vont se réunir à nouveau le 9 septembre à Genève après l'élection américaine du 3 novembre pour décider de la suite. En cas de désaccord, un vote est possible, mais l'OMC n'a jamais eu recours à un vote pour choisir son nouveau patron.
Les ravisseurs de l'Américain Philip Walton enlevés dans la nuit de lundi à mardi à Massalata, au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont exigé mercredi une rançon contre sa libération, selon le préfet de la zone. Philip Walton était installé à Massalata avec sa femme et un enfant depuis deux ans, selon son père, Bruce Walton, qui habite Berny-Nkoni et qui vit au Niger depuis près de 30 ans. Et puis le Liban et Israël, deux voisins toujours officiellement en guerre, doivent poursuivre aujourd'hui un deuxième round de discussions sous l'égide des États-Unis et de l'ONU pour délimiter leurs frontières maritimes et lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Après plusieurs années d'efforts américains en coulisses, les deux pays ont annoncé le 1er octobre le coup d'envoi de ces pourparlers qualifiés d'historique par Washington. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2020. À tout à l'heure.